Chapitre 25. Juillet 2017. Les jours défilent à toute allure et juillet s'annonce. Noah a maintenant 13 mois. Kim ne travaille plus à mi-temps à l'agence immobilière du village. Ryan annule ses premières vacances entre copains à Rhodes. Sur le calendrier de la cuisine, Kim voit une inscription à la date du 17 juillet. Dernier jour de cours, Tallulah. Elle pleure. La police a enfin eu l'autorisation de perquisitionner le manoir des Jacques, mais les enquêteurs n'ont rien trouvé de particulier. D'après eux, le système de vidéosurveillance des cendres n'avait pas été activé ce soir-là. Aucune caméra ne fonctionnait. « C'est ma faute », avait affirmé Joss Jacques sur un ton contrit. « Je ne suis jamais les instructions qu'on me donne. Ça rend mon mari complètement dingue. » Quelque temps après, Scarlett et sa famille avaient pris un avion pour leur maison de Guernesey et ils n'étaient jamais revenus. À la fin du mois, Kim avait annulé ses vacances au Portugal. Elle avait passé des heures à rêver avec sa fille en regardant les photos de ce petit hôtel familial doté d'une garderie. Elle imaginait déjà Noah jouer avec d'autres enfants, y faire ses premiers pas, se baigner avec ses brassards, son maillot de bain et son bob dans la piscine gonflable. La dame qui lui avait répondu au téléphone s'était montrée particulièrement compréhensive quand Kim lui avait expliqué la situation. Elle avait intégralement remboursé sa réservation. Kim avait pleuré pendant une demi-heure après ce coup de fil. Son ex-mari, Jim, lui rend visite régulièrement. Il reste quelques nuits, le plus longtemps possible avant que le devoir ne l'appelle au bureau ou auprès de sa vieille mère, puis il rentre à Glasgow. Kim préférerait qu'il ne vienne pas du tout. Il n'apporte rien de bon, il ne la rassure pas, ne l'aide pas, et Kim doit, du fait de sa présence, acheter plus de nourriture, plus de thé et faire plus de lessive. Un jour d'août, il arrive chez elle et, dès qu'il franchit la porte, Kim sait qu'il s'est passé quelque chose. Il a l'air bouleversé. « Je viens de croiser cette femme », annonce-t-il en posant son sac et sa veste dans l'entrée. « La mère. Megs ? Elle-même. Tu ne sais pas ce qu'elle m'a dit ?» Kim baisse les yeux. Elle évite tout contact avec Megs et Simon depuis le jour de la battue. Elle change de trottoir quand elle les aperçoit et sort des magasins s'ils y entrent. « Non, raconte-moi. » Selon elle, Tallulah et Zach sont partis pour se marier en cachette. Et depuis, ils sont en lune de miel et cela coule douce. Elle m'a dit que c'était trop pour eux d'avoir eu le bébé si jeune, qu'elle n'était pas surprise qu'il se barre. Kim soupire en secouant la tête. Et toi, tu lui as répondu quoi? Qu'elle était folle, qu'il fallait qu'elle consulte. Simon était là? Ouais. Il t'a parlé? Pas vraiment. Tu lui as rappelé qu'aucun des deux n'a prélevé le moindre sou de leur compte en banque depuis le soir de leur disparition? Oui. C'est parce qu'ils n'utilisent que des espèces, apparemment. Mais bien sûr, s'écrie Kim en levant les yeux au ciel. Ils sont probablement en train de se prélasser au milieu de billets dans la suite pour les mariages du Ritz ou du Carlton à l'heure qu'il est. Je suis tellement énervée. Tellement. Comment est-ce qu'ils peuvent prendre ça à la légère? Alors que leur fils, que peut-être leur fils. Puis Jim s'écroule en pleurs. Et enfin, pour la première fois depuis la disparition de leur fille, Kim a l'impression que Jim et elle sont sur la même longueur d'onde. Qu'ils partagent la même angoisse, la même colère, la même rage. Alors, elle tend les bras et ils s'enlacent un long moment. C'est la première fois qu'ils sont si proches depuis plus de 10 ans, alors Kim se dit qu'elle est soulagée qu'il soit là, qu'il puisse vivre cet enfer avec elle, qu'ils se soutiennent. Jusqu'à ce qu'elle sente sa joue contre la sienne, son entrejambe un peu trop près de sa cuisse, et que ses lèvres se posent sur sa bouche. Alors, elle se met à crier, elle le repousse vivement, fort, si fort qu'il manque de tomber. Il se défie du regard, son cœur bat à tout rompre, puis il s'éloigne, ramasse sa veste et son sac, ouvre la porte d'entrée, puis la referme doucement derrière lui. Septembre arrive vite, et Kim voit une nouvelle note sur son calendrier. Début des cours, Tallulah. Elle n'a plus de larmes à verser. Noah a 15 mois. Il marche et parle. Ryan sort avec une certaine Rosie et passe son temps avec elle dans sa chambre. Kim n'a plus d'argent et doit demander un prêt à la banque. L'inspecteur McCoy l'appelle régulièrement pour l'informer des avancées de l'enquête, ou plutôt pour lui avouer à quel point elle stagne. À chaque nouvelle conversation, il devient de plus en plus évident qu'ils ont exploré toutes les pistes imaginables. Les traces de pneus dans l'allée menant au manoir étaient celles de la voiture de Lexi Mulligan. Les images de vidéosurveillance des principales routes des environs n'avaient rien révélé. Le chef de Zach n'avait que des compliments à faire sur le comportement de son employé. Quant à Tallulah, ses professeurs l'encensaient. Une marée de visages inexpressifs, de têtes qui font non. Personne n'a la moindre idée de ce qui a pu leur arriver. Kim est hantée par l'image de Zach empoignant Tallulah au cendre de ce fameux soir d'été, cette bague dans sa poche. Parfois, elle se rend dans la chambre de sa fille, espérant y trouver un indice qui lui permettrait de percer le mystère, de la sortir de l'impasse. Mais il n'y a rien, et les mois passent. Le mois de juin est déjà là. Noah a 2 ans et va chez le coiffeur pour la première fois. Le jour de la disparition de Talula, Kim organise une veillée à la bougie dans le village, afin de raviver l'intérêt des gens autour de la disparition de Talula et Zach. Megs et Simon quittent Upfield Common pour se rapprocher de leur fille qui viennent d'avoir des enfants. Ils ne prennent même pas la peine de lui dire au revoir. Kim trouve une place pour Noah à la crèche de l'église Saint-Brights 4 jours par semaine et commence à travailler au Swan & Ducks le midi. Elle rembourse son prêt. Ryan et Rosie se séparent. Ryan a une nouvelle copine, Mabel, qui a un appartement à Menton. Il emménage avec elle. Aujourd'hui, la vie de Kim ressemble à cela. Déposer Noah à la crèche, bosser au pub, aller chercher Noah à la crèche, faire les courses, la cuisine et manger. Elle ne sort pas le vendredi soir parce qu'elle n'a personne pour garder Noah. Elle boit du vin toute seule et regarde des émissions sur des ratages de chirurgie esthétique ou sur des chiens rescapés avec des prothèses de hanches. Rien ne change. Rien ne se passe. Jusqu'à un matin de septembre, 15 mois après la disparition de Talula. Ce jour-là, une femme sonne à sa porte. Une femme magnifique avec des cheveux blonds et une jolie robe d'été. Elle s'appelle Sophie et lui rapporte une bague qu'elle vient de retrouver. Il s'agit de celle que Zach avait achetée pour Talula. Elle était entourée dans le parc de Maple House, sous une flèche indiquant où creuser. Et voilà. Enfin, une preuve que quelqu'un sait quelque chose, que l'histoire de Talula n'est pas encore terminée. Quand Sophie s'en va, Kim attrape son téléphone et cherche dans sa liste de contacts un numéro qu'elle n'a pas composé depuis des mois. « Bonjour Dominique, c'est Kim. » Au bout d'un moment, elle avait arrêté de l'appeler inspecteur McCoy et lui Madame Knox. « Il y a du nouveau.